À Ottawa, on se prépare au discours du trône qui va être prononcé par son excellence et j'ajouterais même la très excellente, la très très excellente Julie Payette, gouverneure générale. Et on en parle immédiatement avec Joël-Denis Bellavance qui est chef de bureau de la Chambre des communes pour la presse. Salut Joël-Denis.
Bonjour Patrick.
D'abord, peut-être juste nous rappeler c'est quoi un discours du trône?
En fait, un discours du trône, c'est un énoncé des grandes intentions d'un gouvernement alors qu'on lance le début d'une nouvelle session. Vous savez que le premier ministre a prorogé le Parlement au mois d'août pour justement donner le coup d'envoi à une nouvelle session de la 43e législature et qui permettra au gouvernement Trudeau de remettre le compteur à zéro parce que il y a eu un discours du trône qui a été prononcé en novembre dernier, après les élections fédérales, mais ce discours du trône, évidemment, n'est plus pertinent au contexte actuel que l'on vit, compte tenu de la COVID et de la crise économique qui s'est en suivi. Donc, le gouvernement veut redonner, comment dirais-je, l'heure juste aux Canadiens en présentant des priorités qui sont adaptées à la réalité que l'on vit en ce moment.
À quoi on peut s'attendre en termes de priorités là, qui vont être énoncé par la gouverneure générale, évidemment, dans un texte qui aurait été préparé par le PM.
Patrick, si vous m'aviez posé la question il y a 3 semaines, la réponse aurait été différente de celle que je vous offre aujourd'hui. Il y a 3 semaines, le gouvernement était prêt à lancer de grands projets, des projets ambitieux pour refaire le Canada, le rendre plus juste, plus vert, plus équitable et tout ça. Mais maintenant, la crise sanitaire a repris le dessus de l'actualité politique et donc il faut ajuster le discours du trône et c'est ce qu'on a senti dans le ton du premier ministre au cours des derniers jours. Il a un peu baissé les attentes, est un peu moins, comment dirais-je, porté vers l'enflure verbale. Je pense qu'il va, il est revenu un peu sur terre en raison justement de la deuxième vague qui s'amorce dans 2 provinces, l'Ontario et le Québec notamment, et ça fait en sorte que ce à quoi on peut s'attendre, ce sera des projets plus modestes. On va vouloir dire qu'on veut aider les Canadiens à nouveau à passer à travers la crise actuelle, la crise sanitaire, la crise économique également. Réforme de l'assurance-emploi va sûrement être à l'agenda parce que la prestation canadienne d'urgence doit prendre fin dans 1 semaine. Donc, il faut trouver un moyen de donner un soutien à ceux qui n'auront pas trouvé d'emploi d'ici là. Aussi, des mesures pour soutenir les provinces et notamment les transferts en santé. Ça, c'est à l'ordre du jour. La semaine dernière, les premiers ministres, je vous le rappelle, ont demandé 28 milliards d'augmentation par année. Je ne crois pas qu'on va satisfaire à la demande des provinces, mais à tout le moins, on va faire un petit pas. Aussi, s'attaquer ou offrir de meilleurs soins dans les centres de soins de longue durée, par exemple, les CHSLD au Québec et les autres soins de longue durée ailleurs au pays. Ça aussi, c'est à l'ordre du jour. Évidemment, des mesures pour, comment dirais-je, assurer ou poursuivre la transition vers une économie plus verte. On peut s'attendre à ce qu'il y ait des mesures pour électrifier davantage le transport. Ça, c'est une des promesses, d'ailleurs, des libéraux durant la campagne électorale. On peut s'attendre à ce que ça fasse une nouvelle figure. Train à haute fréquence, peut-être verra-t-on aussi de développement à ce sujet-là, un train à haute fréquence dont on parle depuis un certain temps dans les rangs libéraux et qui permettrait d'avoir un meilleur, comment dirais-je, service ferroviaire entre Québec et Windsor, par exemple.
Et juste avant de passer au cas bien précis de Julie Payette, la gouverneure générale là, qui tremble dans des affaires de harcèlement psychologique au bureau, Joël-Denis, notre collègue Bernard Drainville annonce sur son compte Twitter là, et Radio-Canada est sur le même dossier. Il y aura un discours de Justin Trudeau demain aux Canadiens, demain soir. Qu'est-ce que le PM va vouloir dire aux Canadiens qu'il n'aura pas fait dire à la gouverneure générale, tu penses?
Probablement qu'il souhaitait prendre la parole. Vous savez que c'est très protocolaire, un discours du trône. C'est lu, comme vous l'avez dit, par la gouverneure générale au Sénat. Le premier ministre, normalement, ne parle pas ce jour-là, ne fait pas de commentaires. Donc, il veut probablement se montrer rassurant sur la suite des choses parce que je pense que à la suite des annonces comme quoi 2 provinces importantes sont dans une nouvelle vague de contamination à la COVID-19. Le premier ministre va vouloir se montrer rassurant, démontrer qu'il il est en plein contrôle de la situation. À tout le moins, il est là pour soutenir les Canadiens. Donc, un discours, je pense, qui s'impose dans les circonstances, qui viendra justement couronner cette journée remplie de nouvelles, parce qu'un discours du trône, c'est toujours un événement important dans la vie d'un gouvernement.
Joël-Denis, la gouverneure générale, celle qui va lire le discours du trône, on le sait, elle a été dénoncée par des employés de Rideau Hall pour du harcèlement psychologique, des comportements là, inacceptables avec des employés. Elle a toujours nié, mais là, on a appris que ses 2 derniers employeurs, le Comité olympique canadien et le Centre des sciences à Montréal, ont mené des enquêtes qui ont exposé le même genre de comportement. Comment c'est reçu à Ottawa?
Drôlement, parce qu'on a aussi appris, grâce aux enquêtes menées par la CBC, que le bureau du premier ministre n'a pas cru bon consulter les anciens employeurs de Mme Payette pour voir s'il était la personne toute désignée pour occuper les hautes fonctions de gouverneur général du Canada. Donc, ça ouvre la porte à de nombreuses questions, Patrick, à savoir, est-ce que les vérifications qui s'imposent avant de nommer quelqu'un à un poste aussi important ont été faites? Est-ce qu'on a mené toutes les vérifications nécessaires pour s'assurer que cette personne ne constituerait pas éventuellement une source d'embarras pour le gouvernement? Et il semblerait que non, selon ce que CBC nous a appris au cours des dernières heures. Donc, ça ouvre la porte à savoir est-ce que le gouvernement fait véritablement ses devoirs jusqu'au bout avant de combler des postes importants. Et une chose à noter, Patrick, c'est que si M. Trudeau voulait un jour congédier Mme Payette, l'exercice n'a jamais été fait dans le passé. Ce serait une première, ce serait sans précédent. Il faudrait que M. Trudeau écrive une lettre à la reine Élisabeth II de l'Angleterre pour lui demander de congédier Mme Payette. Donc, imaginez M. Trudeau qui mène un gouvernement minoritaire en pleine pandémie et qui se voit contraint d'écrire une lettre. Et ça pourrait devenir la situation. Pourquoi? Parce qu'il y a une enquête en cours pour déterminer si oui ou non il y a eu un climat toxique à Rideau, la résidence officielle de Mme Payette. Et si oui, que va faire le gouvernement? Et ça, je pense que les pressions sont très, très fortes pour qu'on demande à Mme Payette de quitter sa fonction. Si elle le refuse de le faire, eh bien, M. Trudeau ne l'aura d'autre choix que de prendre sa plume et d'écrire cette lettre à la reine Élisabeth II.
Merci beaucoup, Joël Denis.
Merci à vous. Bonne journée. Au revoir.